Bonjour à tous et merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
RFI Midi, 2 heures ensemble pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, ce mercredi 5 mars, Donald Trump, encore le président américain qui a prononcé un long, long discours hier devant le Congrès. Plus d'une heure et demie pour vanter son premier mois à la Maison-Blanche. Ses actions avec des tonalités parfois presque de campagne électorale.
Nous avons fait plus en 43 jours que la plupart des autres administrations en 4 ou 8 ans et nous ne faisons que commencer.
Une fois encore, les mêmes propos, la même volonté affichée d'agir seul, la même véhémence aussi. Analyse avec notre invité dans 3 quarts d'heure. On appellera également notre correspondant à Washington à partir de 13h, temps universel. On reviendra aussi sur cette annonce, ce revirement total en Allemagne, des centaines de milliards d'euros de dépenses publiques. Et ça n'est pas étranger, bien sûr, au désengagement annoncé des États-Unis dans le soutien à l'Ukraine et à la défense européenne. Nous serons en ligne dans quelques minutes avec un député du Parti social-démocrate, parti qui demandait depuis des mois déjà de pouvoir enfreindre la sacro-sainte règle sur le dépassement du déficit public. Nous vous emmènerons ensuite en Suède où l'on déplore l'implication de plus en plus fréquente d'enfants ou d'adolescents dans les gangs et dans les violences qu'ils commettent. Vous entendrez notamment le témoignage d'un repenti.
La plupart de ces jeunes n'ont aucune idée des conséquences. Ils n'ont aucune foi en l'avenir. Ils ne pensent pas survivre longtemps. Et quelque part, ils se fichent complètement des répercussions que cela peut avoir. La principale raison pour s'engager dans les gangs, c'est l'argent, bien sûr. L'argent et une forme de statut. Moi, je sais ce que je recherchais. C'était d'être respecté.
Reportage de notre correspondante en Suède à écouter dans 20 minutes. Et à midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Nous parlerons de la crise politique en Guinée-Bissau autour du glissement du calendrier électoral et de la candidature du président à sa réélection. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI, l'Europe à midi.
C'est un plan sans précédent en Allemagne dans un contexte de très grande incertitude sur le soutien américain à l'Ukraine, de pression de Donald Trump pour que les Européens assurent eux-mêmes leur défense et dans un pays en crise économique. Le futur chancelier, le conservateur Friedrich Merz, fait sauter le verrou de l'orthodoxie budgétaire. Il annonce des dépenses publiques massives, plusieurs centaines de millions d'euros.
Les dépenses supplémentaires en matière de défense ne pourront être absorbées que si notre économie retrouve une trajectoire de croissance stable dans un délai très court. Cela nécessite, outre une amélioration radicale des conditions de compétitivité de notre économie, des investissements rapides et soutenus dans nos infrastructures. Les ressources nécessaires ne peuvent pas être financées uniquement par les budgets fédéraux, étatiques et locaux. Actuel. C'est pourquoi nous voulons mettre en place un programme d'urgence financé par le crédit, un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour les 10 prochaines années, à partir duquel ces investissements nécessaires seront réalisés.
L'annonce de Friedrich Merz et au lendemain de sa déclaration inédite, nous sommes en ligne avec Nils Schmidt, député SPD, porte-parole pour les affaires étrangères du Parti social-démocrate. Bonjour.
Bonjour madame.
Avez-vous été surpris par ces annonces et l'ampleur de ce plan ?
Pas tellement, parce que les derniers jours, on a pu s'apercevoir que la droite était prête à renverser la tendance sur les questions budgétaires et plus ouverte à des compromis sur une réforme du frein à la dette.
Jusqu'à présent, la droite y était opposée. Le respect des règles budgétaires, c'est une chose à laquelle on ne touche pas en Allemagne. Là, on annonce un plan qui va en plus bien au-delà de la seule question de l'Ukraine et de la défense européenne.
Oui, disons, c'était la rencontre de la droite avec la réalité économique et financière pendant la campagne. La droite s'était bornée à répéter un discours néolibéral assez dogmatique, mais vu l'environnement international et la nécessité de rénover les infrastructures publiques en Allemagne, il était évident qu'il fallait dépenser plus et remettre en cause le frein à la dette. Et maintenant, c'est chose faite et ça donne la marge de manœuvre budgétaire nécessaire à la nouvelle coalition qui est en train de se former.
Justement, les négociations, elles sont en cours en vue de former un gouvernement entre la droite conservatrice et les sociaux-démocrates. Ça fait partie de la négociation ?
Oui, c'est la première phase dite phase exploratoire pour préparer des négociations de coalition plus formelles après. Et là, il faut se mettre d'accord sur quelques fondamentaux. Et le plus important, c'était de fixer un cadre budgétaire pour le mandat à venir, parce que c'est là, c'est l'écueil sur lequel la coalition précédente a échoué, faute d'avoir trouvé un compromis sur le frein à la dette. Maintenant, c'est chose faite et ça facilite les négociations qui vont commencer très vite.
Ça avait provoqué en effet l'éclatement du gouvernement d'Olaf Scholz, qui lui réclame une politique d'investissement depuis plusieurs mois déjà. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est l'effet de négociation politique ou c'est un effet Donald Trump ?
C'est les deux. C'est tout d'abord la reconnaissance de la droite que la réalité financière est plus compliquée qu'elle l'avait dit pendant la campagne, mais c'est aussi l'effet Donald Trump parce que même la droite, la démocratie chrétienne allemande, traditionnellement très atlanticiste, a dû s'apercevoir du fait que avec Donald Trump, l'alliance avec l'Amérique n'est plus si certaine que ça. C'est devenu un allié peu fiable et l'Europe devrait consacrer plus de ses ressources à sa propre défense. Donc c'est maintenant l'heure de l'Europe, le moment de l'Europe pour investir plus dans les industries de défense européennes.
Donc on voit que deux grands partis, ceux qui formeront la coalition gouvernementale a priori, sont sur la même ligne désormais, mais un certain nombre de mouvements sont opposés à une augmentation des dépenses publiques. Est-ce qu'ils ont une force de frappe suffisamment grande pour bloquer le projet ?
Non, pour réformer la constitution en Allemagne, il faut une majorité de 2/3 dans les deux chambres du Parlement, donc le Bundestag, le Parlement, et le Bundesrat, la chambre qui représente les Länder, les régions. Et cette majorité est assurée dans l'état actuel des choses, notamment grâce au soutien prévisible des Verts qui ont eux aussi toujours donné la priorité aux investissements et ont aussi favorisé une augmentation des dépenses de défense. Donc je suis assez confiant que le vote qui aura lieu dans les deux semaines à venir sera couronné de succès, donc que les propositions faites par la CDU et le SPD seront mises en œuvre.
Ce plan est un revirement très important en Allemagne. On a entendu aussi hier Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annoncer également une augmentation des dépenses avec une précision pour les États en disant que la règle sur le déficit public serait appliquée de manière un peu moins stricte qu'avant. Est-ce que selon vous, ça peut enclencher une sorte d'effet boule de neige en Europe et appeler d'autres pays à faire pareil ?
Je l'espère. En fait, la flexibilité du cadre national, donc la réforme du frein à la dette allemand, devrait aussi inciter la Commission européenne et nos partenaires européens à se mettre d'accord sur un infléchissement des règles du pacte de stabilité européen pour donner la priorité aux dépenses des fonds supplémentaires. Donc cela devrait être mené en parallèle et c'est pourquoi l'annonce de Madame von der Leyen est très bien vue en Allemagne et j'espère que les fonds supplémentaires allemands nous amèneront à une consolidation et une coopération plus étroite entre partenaires européens en matière de défense. Il faut renforcer le secteur de défense européen. Et maintenant, l'Allemagne débloque les fonds nécessaires. Donc, ils devraient être dépensés dans une perspective européenne.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Nils Schmidt, député SPD et porte-parole pour les affaires étrangères du Parti social-démocrate. Je vous remercie.
Merci à vous.
L'Europe se met donc en ordre de marche. On vient de parler de l'Allemagne, de la présidente de la Commission européenne, à la veille d'un nouveau sommet sur l'avenir de l'Ukraine organisé en Europe. Et ce soir, le président français va recevoir le Premier ministre hongrois, opposé, lui, au soutien à l'Ukraine et qu'on sait proche de la Russie, de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron va aussi s'adresser ce soir aux Français, toujours sur cette question du conflit en Ukraine.
RFI. L'Europe à midi.
L'actualité en Europe, c'est aussi cette commission d'enquête au Royaume-Uni, chargée de faire la lumière sur un naufrage meurtrier en novembre 2021. La mort d'au moins 27 personnes, 27 migrants en mer, dans la Manche, malgré des appels de détresse répétés. Ni les secours français, ni les secours britanniques ne leur avaient porté assistance. Et deux personnes seulement ont survécu. Issa Mohamed Omar est l'un d'entre eux et il a témoigné hier devant les enquêteurs en racontant ce qui s'était passé la nuit du drame. Amélie Beaucourt.
Dans son souvenir, il est 2h du matin lorsque les premiers appels de détresse sont lancés par les autres passagers.
Il disait « L'eau s'est infiltrée dans le bateau, il y a beaucoup de femmes et d'enfants à bord, on a besoin d'aide ».
Il raconte les pleurs et les hurlements de douleur des gens qui se noient devant ses yeux, un spectacle terrifiant qui s'éternisera jusqu'au lever du soleil.
Je me suis accroché à ce qu'il restait du bateau en gesticulant. Je me suis dit, si je reste figé, je vais mourir de froid. Au petit matin, une dizaine d'entre nous étions encore en vie et... Excusez-moi, je n'ai pas envie de me souvenir de ce moment.
Si vous voulez qu'on s'arrête, propose l'avocat, dites-le nous. Le témoin prend une grande inspiration et poursuit.
Je crois que si les secours étaient venus, la moitié serait encore en vie aujourd'hui. C'est parce qu'on est perçu comme des réfugiés qu'ils ne sont pas venus. À leurs yeux, on ne valait pas mieux que des animaux.
Issa Mohamed Omar demande poliment une requête à la commission. Un jeune de 16 ans a appelé à l'aide cette nuit-là. « Je veux savoir ce que les autorités lui ont dit au bout du fil. Je veux qu'elle me transmette cet enregistrement. »
Amélie Beaucourt, midi et 42 minutes ici à Paris. On vous emmène maintenant en Suède, où les autorités s'inquiètent de la violence des gangs, des groupes impliqués dans le trafic de drogue ou d'armes, responsables d'une fusillade par jour quasiment. Et les tirs, les meurtres, sont de plus en plus souvent le fait d'adolescents, voire d'enfants. Notre correspondante Ottilia Ferret a enquêté.
On les appelle les enfants soldats. Ils n'ont parfois que 10 ou 11 ans et sont engagés comme tueurs à gages parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de responsabilité pénale fixé à 15 ans. Une aubaine pour les gangs qui vivent du narcotrafic. Victor, 25 ans, côtoyait certains d'entre eux à l'époque où il était membre d'un de ces gangs à Stockholm.
J'ai pas vraiment recruté, mais j'ai bien demandé à des adolescents de faire des trucs pour moi, comme détruire des preuves ou faire exploser des entrées de bâtiments. Mais le plus souvent, c'était des ados qui venaient me voir d'eux-mêmes. C'est clair que leur âge ne cesse de baisser. Il y en a de plus en plus qui sont condamnés pour des crimes graves et qui prennent 3 ou 4 ans de prison. Ça n'a fait qu'empirer ces dernières années.
Aujourd'hui repenti et ayant purgé sa peine, Victor a encore un peu de mal à aborder son passé criminel. La première fois qu'il a eu affaire à la police, il n'avait que 13 ans. Il était en décrochage scolaire, manquait de repères et ne trouvait pas sa place ni à la maison ni à l'école.
La plupart de ces jeunes n'ont aucune idée des conséquences. Ils n'ont aucune foi en l'avenir, ils ne pensent pas survivre longtemps et quelque part, ils se fichent complètement des répercussions que cela peut avoir. La principale raison pour s'engager dans les gangs, c'est l'argent, bien sûr. L'argent et une forme de statut. Moi, je sais ce que je recherchais. C'était d'être respecté.
Des choses que Jonas Söderlund reconnaît dans les enfants qu'il rencontre dans les écoles, dans la rue ou les centres de jeunesse. Il est coordinateur local et son métier consiste à empêcher les enfants de se tourner vers la criminalité.
Quand j'ai commencé il y a 3 ans et demi, notre cible, c'était les 10-15 ans. Mais on a abaissé l'âge parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait travailler avec des enfants encore plus jeunes. Aujourd'hui, je m'occupe des enfants dès l'âge de 6 ans. De nos jours, ils sont à la recherche de la même chose que les adultes, l'argent et le statut. On vit dans une culture qui tend vers cela. Il y a très peu d'enfants qui décident d'eux-mêmes de devenir criminels. Ils se font plutôt embrigader par des adultes. Ça peut commencer comme ça, par exemple. L'enfant se fait prêter un beau bonnet de marque par quelqu'un. Le lendemain, la personne dit qu'elle veut le récupérer et lui dit qu'il y a une tache dessus. Maintenant, tu me dois 300 euros. Ça commence par ça. Ensuite, il y a des menaces, des pressions, et puis on est coincé.
Ce jour-là, Jonas a rendez-vous dans un commissariat au sud de Stockholm avec la police et les services sociaux. Ensemble, ils vont essayer d'identifier les enfants qui sont susceptibles de se tourner vers la criminalité. La chef de police, Josefine Resmagi, assise en bout de table, décrit une situation en constante évolution.
Aujourd'hui, on voit des enfants qui veulent ressembler aux criminels. On a vu des enfants jouer avec des sachets comme ceux dans lesquels on met de la drogue et ils jouent à les vendre. Quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent devenir quand ils seront grands, avant ils répondaient souvent par un métier, maintenant ils répondent juste qu'ils veulent gagner de l'argent et on voit que les filles s'y mettent aussi.
Les recrutements se font principalement sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, la Suède a vu apparaître ce qu'elle appelle des « crime influencers » ou des influenceurs du crime, sur TikTok notamment. Plus surprenant encore, certains adolescents postent eux-mêmes des messages se disant disponibles pour effectuer des missions. Le ministre suédois de l'Éducation nationale compare ces plateformes à des sites de vente aux enchères pour des meurtres et des explosions. Germay, responsable d'une association qui s'occupe de réintégrer d'anciens détenus et de faire de la prévention auprès des jeunes, décrypte ce phénomène tarifé.
Ils se font promettre de 2000 à 10 000 ou 20 000 euros pour tuer quelqu'un, porter une arme ou faire passer de la drogue. Ces enfants commettent des crimes parfois horribles et ils ne sont pas toujours payés.
Beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux et c'est difficile pour les adultes d'être présents. Même s'ils ont un compte TikTok ou Snapchat, ils n'arrivent pas à suivre. Ça va beaucoup trop vite.
Face à l'explosion de la criminalité chez les mineurs, le gouvernement de droite, soutenu par l'extrême droite, veut autoriser la police à surveiller secrètement les appels téléphoniques et les communications électroniques des jeunes de moins de 15 ans. Il est aussi question d'imposer, à titre préventif, le port du bracelet électronique à certains dès l'âge de 15 ans. Des mesures controversées qui questionnent les valeurs fondamentales des Suédois, comme Robert, père d'une adolescente de 15 ans, ou encore Germay.
C'est tragique qu'on en soit arrivé au point de réfléchir à ce genre de loi. De manière générale, je suis contre tout ce qui peut violer l'intégrité des personnes, surtout quand il s'agit de mineurs. Mais la criminalité s'est tellement répandue que je comprends le besoin. Il faut que les choses changent.
Les enfants qui risquent de se tourner vers la criminalité, ce dont ils ont besoin, c'est de l'aide. Les méthodes de punition, je n'y crois pas. Leur mettre un bracelet électronique au pied tout en les laissant dans le même milieu, ça ne les empêchera pas d'avoir des activités criminelles.
Autre proposition, les parents refusant de suivre les directives des services sociaux, comme s'assurer que leur enfant va à l'école, fait ses devoirs ou respecte le couvre-feu, pourraient être condamnés à payer une amende. Pernilla est la mère de Alfred, qui purge actuellement une peine de prison de 12 ans et 8 mois. Il a été surnommé par les médias suédois le fabricant de bombes de Foxtrot. Foxtrot étant l'un des plus gros gangs actifs en Suède.
Cette amende résonne comme une double punition pour les parents. La plupart font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. C'est une proposition très bizarre. Pour Alfred, ça a démarré par des petites choses, autour de 13-14 ans. Il a commencé à faire l'école buissonnière, puis à voler dans les magasins, et puis des vélos et des scooters, et tout est devenu de plus en plus grave.
Le savoir en prison la rassure presque aujourd'hui, même si elle ne comprend toujours pas comment il a pu en arriver là.
Nous, sa famille, on a fait tout ce qu'on a pu et on a aussi demandé de l'aide à l'extérieur, mais ça n'a pas suffi. On était une famille tout à fait banale. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que ça peut arriver à une famille, entre guillemets, normale, où il y a tout ce qu'il faut. Alfred a reçu tant d'amour.
Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de rabaisser l'âge de responsabilité légale à 14 ans et de permettre à la police de supprimer immédiatement des contenus illégaux sur les réseaux sociaux. Les autorités passent clairement à l'offensive et tente de conjuguer répression, surveillance et prévention au risque d'empiéter sur les libertés individuelles.
Reportage d'Otilia Ferré, correspondante en Suède, à retrouver dans l'émission Accent d'Europe tout à l'heure à 19h10, temps universel. Notre monde de tech. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Anne.
Il reste moins d'une semaine à la Commission européenne pour répondre à l'ultimatum lancé par le Congrès américain. Dans une lettre du 23 février dernier, la commission juridique de la Chambre des représentants avait sommé la commissaire à la concurrence de renoncer à l'application du règlement sur les marchés numériques, ce texte qui encadre les pratiques des grandes plateformes numériques américaines.
Oui, tic-tac, tic-tac, le compte à rebours est lancé, rappelle le républicain Jim Jordan, qui est le président de la commission juridique de la Chambre des représentants aux États-Unis. La nouvelle administration de Donald Trump cherche par tous les moyens à démolir les règlements européennes en vigueur sur le numérique, qui sont pour mémoire respectivement le DSA et le DMA. Et la menace a au moins le mérite d'être claire. Si l'Europe ne renonce pas à amoindrir la portée de ses textes législatifs, elle s'expose aux représailles commerciales massives de la part des États-Unis. Cette offensive contre les règlements encadrant le numérique dans l'UE s'est déroulée en fait en deux phases. En premier, la publication le 21 février dernier du mémorandum de Donald Trump dénonçant les extorsions et les pénalités injustes que les pays européens infligeraient aux géants du numérique américain. Dans le collimateur du locataire de la Maison-Blanche, eh bien, les taxes dites GAFAM qui ponctionneraient de façon indue, selon Washington, les revenus des entreprises technologiques de l'oncle Sam.
Deuxième offensive américaine, une lettre donc envoyée directement à la commissaire européenne à la concurrence par le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants.
Effectivement, la missive tire à boulet rouge sur le Digital Markets Act, plus connu sous le sigle du DMA. Pour rappel, cette législation européenne cherche à encadrer les pratiques des gatekeepers du numérique, c'est-à-dire les contrôleurs d'accès au web. L'objectif du règlement est d'imposer des règles strictes de concurrence à Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft et bien d'autres pour qu'ils n'étouffent pas les autres plateformes ou l'essor de jeunes pousses. Mais tous les griefs américains peuvent se concentrer en une seule formule. L'Europe mènerait une politique protectionniste sous couvert de ses règlements pour favoriser les entreprises européennes au détriment, évidemment, des géants américains de la tech. Le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants donne à la commissaire européenne jusqu'au 10 mars 2025 à 10 heures précises pour rendre des comptes. Passé ce délai, l'Europe s'expose à des droits de douane punitifs sur les produits européens importés aux États-Unis qui seraient bien plus élevés que les 25% déjà annoncés par Donald Trump.
Pour l'instant, Bruxelles affiche une attitude de fermeté et compte bien défendre sa souveraineté numérique.
Oui, la commissaire à la concurrence, Teresa Ribera, a déjà répliqué qu'elle ne céderait jamais aux menaces et ne modifierait pas les lois adoptées par les législateurs européens. Difficile toutefois de prévoir l'issue de ce bras de fer qui oppose deux visions de la technologie, l'une portée par des géants du numérique entièrement dévoués à Donald Trump et l'autre défendant le respect des valeurs démocratiques que partagent les citoyens de l'Union européenne.
À demain, Dominique Dezonnet. Il y a du football encore ce soir à suivre en Europe, suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Quatre matchs au programme. PSG-Liverpool à partir de 20h, temps universel. C'est à suivre en direct sur notre antenne. Autre rencontre, Benfica-FC Barcelone, Bayern Munich-Bayer Leverkusen et puis un peu plus tôt, le Feyenoord-Rotterdam face à l'Inter Milan. On va parler cinéma maintenant, d'un film qui sort aujourd'hui sur les écrans en France. Il s'appelle Le Système Victoria et son réalisateur Sylvain Desclous en parle à Elisabeth Le Quéré.
J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagé à faire et accessoirement ce pourquoi je vous paye.
Sylvain Desclous, bonjour.
Bonjour.
Le personnage principal de votre film, David, est architecte et chef de chantier. Un jour, on lui demande de construire une tour immense à la Défense, dans des délais infernaux. Et donc, pour arriver à respecter ces délais, petit à petit, il va lâcher tous ses idéaux professionnels.
Moi, le désir que j'ai eu d'adapter le livre d'Éric, il est quasiment né d'une phrase.
D'Éric Reinhardt,
absolument. Il est quasiment né d'une phrase que dit le personnage principal David à un moment donné à Victoria, qui est vous les puissants, vous avez compris un truc génial, c'est que vous n'avez aucun problème à assigner des objectifs dont vous savez qu'ils sont inatteignables, parce que vous savez très bien que quelqu'un les remplira, ces objectifs, au péril de sa vie, de sa santé, de sa famille. Et oui, ça définit bien ce que traverse et ce que subit David pendant le film, c'est-à-dire se mettre en tête de finir coûte que coûte cette tour de chantier. Ouais.
Et face à lui, il y a cette femme, Victoria.
La puissance du regard que porte Victoria sur David fait que celui-ci sort de lui-même. Et alors qu'on le prend au début du film dans un endroit un petit peu voilà, de solitude, d'échec même, et puis ce chantier qui est pharaonique et qu'il était sur le point d'abandonner, et ben, tout d'un coup, il va le mener à son terme.
Jeanne Balibar, vous la mettez en scène, Sylvain Desclous, avec des jeux de miroirs. Elle est toujours diffractée, coupée, anamorphosée. En fait, c'est une vraie femme fatale.
Je me suis rendu compte bien après coup, c'est-à-dire une fois le tournage bien commencé, qu'en fait, effectivement, elle apparaissait de 3 à 4 manières différentes et qu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'elle était. Et ça racontait quelque chose que j'aime bien et que se pose, j'imagine, David, qui est « mais qui est-elle et surtout où est-elle »
Et jusqu'où va-t-elle me mener ?
Et jusqu'où va-t-elle me mener ?
Alors justement, ce sont deux personnages complètement différents en termes de caractère et de tempérament, mais au-delà, c'est aussi la rencontre de deux mondes très différents, un monde froid, un monde, elle est DRH, elle est dans des univers très feutrés, etc. Lui, il est dans les chantiers, quoi. Il est les mains dans le béton.
C'est ce qui m'a vraiment attiré également dans le livre d'Éric quand je l'ai lu, c'est la confrontation de ces deux mondes, comme vous venez de le dire. David, artiste un petit peu idéaliste, se mue en manager efficace, on va dire, et puis Victoria, de femme fatale, froide, DRH, se mue en amoureuse Pygmalion, donc la discussion a du bon.
Pourquoi est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret ?
Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place.
Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous.
Au cœur du film, Sylvain Desclous, il y a cette rencontre entre David et Victoria. Bon, on ne va pas déflorer ni raconter ce qu'est le système Victoria, mais bon, c'est quelque chose qui va conduire David très très loin. Les deux acteurs, Damien Bonnard et Jeanne Balibar, comment vous les avez castés ?
Damien Bonnard s'est imposé tout de suite dès la dernière ligne d'écriture du scénario terminé parce que il incarne pour moi assez évidemment et idéalement ce mélange de force, de bonhomie. Pour le personnage de Victoria, il fallait faire un petit pas de côté et trouver une actrice qui puisse incarner tout ça et tout en restant drôle, avec un charme évident. Et quand je dis ça, j'arrive très naturellement et très logiquement à Jeanne.
Et comment vous avez fait pour reconstituer le travail de chantier ? C'est quelque chose qu'on voit très très rarement au cinéma.
C'est vrai qu'il y a une fierté de construire ensemble ce bâtiment, à fabriquer ensemble quelque chose qui va rester.
Sylvain Desclous, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sylvain Desclous, réalisateur du film Le Système Victoria, au micro d'Elisabeth Le Quéré. Dans 3 minutes, un nouveau journal sur RFI, toute l'actualité internationale et puis l'actualité africaine à 12h30, temps universel. Avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour, Anne Kantner.
Et à la une aujourd'hui.
Au Mali, des négociations en cours entre les rebelles du FLA, le Front de Libération de l'Azawad et les djihadistes du JNIM. Des opérations conjointes seraient à l'ordre du jour. De nouvelles tensions au Soudan du Sud, où plusieurs proches de l'opposant et vice-président Riek Machar ont été arrêtés hier. Et puis nous verrons que le représentant de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs est en visite à Kinshasa.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Pour l'heure, on va écouter un peu de musique.
Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des pajamas franclés, des billets violets. Vas-y, pense pour moi, baby.
Deux étoiles du rap français, MC Solar et Joker, avec ce titre à écouter en ce moment dans la playlist RFI, Benjamin B. Peut-être Benjamin B.
Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des pajamas franclés, des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partons avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
Alcool à gogo, pole dance et gogo. Notes dans la poche, wesh à mon gogo. Émergence intime dans Jado au Togo. Logo Croco Crocs, flow anti-bobo. Petit clic clic, puis des tas de bratatata. Ça pète sur patapata, les roulements font taratata. Dans le club, c'est la cata, le choix, plata au plata. Ne parle pas d'eau plate, il la jette dans le titi caca.
Viens, bouge de la scène. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je vois ton côté mystérieux. Comment tu bains, je postère. Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des pajamas franc plein des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby. Partons avant la fin, le club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi.
ce qu'on recherche c'est le feng shui. Rolex, sushi, frites, oui, bien cuit. Comme le veut la tradition, salé sera l'addition. À cause de notre addiction au charme, à la séduction.
J'ai de la bœuf dans mon blanc, le tequila dans mon cap. Aucun de nous deux ces soirs ne mérite de rentrer sale. Viens, on se casse de l'algue, mon cigare est dans le club. Bounce, 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 comme moi jamais je suis fucked up. Viens, bouge de là, c'est mieux. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je veux voir ton côté mystérieux. Comment tu bounce au postérieur. Viens, on se casse de là, c'est mieux. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je veux voir ton côté mystérieux. Comment tu bouges au postérieur.
RFI Midi.